Qu'est-ce qui te fait marcher dans la vie ?
Beaucoup de choses, mais particulièrement les beaux projets qui fleurissent comme ça dans des endroits comme à Nantes, au Solilab, sur l'autre marché, etc. Ça, ça me fait vivre.
Bonjour, en compagnie de Camille Breton, chargée de production événementielle au sein de l'association Les Écosolis, nous allons à la rencontre de quelques exposants, exposantes de l'autre marché qui se tient autour du square Jean-Baptiste Davier à Nantes jusqu'au 24 décembre 2016. L'année dernière, en compagnie de Raphaël, nous avons visité cet autre marché cette année.
Ça reste le même concept, des chalets, un barnum exposant. En gros, sur la forme, c'est à peu près la même chose. Sur le fond, il y a eu 40% de renouvellement. Donc on découvre de nouvelles structures. On voit de nouveaux projets émerger. Et puis de la nouveauté aussi au niveau des produits. Mais c'est sensiblement le même format que l'an dernier, oui.
S'il y a du renouvellement, ça signifie que vous avez sélectionné autrement, que certaines structures n'ont pas souhaité renouveler l'expérience ?
Alors la plupart ont souhaité renouveler l'expérience. Après, c'est plus sur la vocation de notre marché, qui a été toujours d'être un tremplin pour les jeunes structures. Donc c'est pour ça qu'on laisse 40% de renouvellement, de chance à certains projets pour émerger, pour avoir un tremplin et puis une bonne occasion de rencontrer les Nantais et plus largement en fait les habitants de l'Euratlantique. Donc c'est dans la manière de sélectionner et puis c'est aussi à travers le labo des Écosolis qui accompagne les porteurs de projets. Là on leur propose aussi d'y participer sous une forme gratuite et qui permet de tester en fait directement leur idée avec le grand public. Une structure qui peut être hyper intéressante à présenter, c'est l'atelier du crayon. C'est dans les 10% de structures qui ne viennent pas de l'Euratlantique. Donc c'est les gens qui sont d'un peu plus loin, des Landes, parce que c'est un produit qu'on ne trouve pas du coup sur notre territoire, qu'on a sélectionné pour la qualité, la finition des produits et puis l'originalité aussi. Et c'est comme ça qu'on propose, qu'on renouvelle aussi l'offre et qu'on propose aux clients de notre marché de découvrir chaque année de nouveaux produits, de nouveaux projets. Donc, là, c'est l'exemple avec l'atelier du crayon.
C'est une alternative à la boulangerie ?
Non, pas tout à fait. C'est peut-être une alternative au crayon fabriqué de manière industrielle qu'on retrouve banalement dans les supermarchés. Là, en fait, ce sont deux femmes qui sont derrière ce projet-là, qui créent elles-mêmes. Donc, c'est aussi en dessinant, en créant, savoir d'où ça vient et les matériaux et puis le projet, le processus de fabrication. C'est tout ça, en fait.
J'imaginais que c'était du pain, et alternative à la boulangerie, du pain, autre pain.
Pardon, je suis pas au top là.
On utilise de l'osier, le pain, ça colle aux doigts.
Nathalie.
L'écorce du pin n'est pas très agréable. Et puis, l'intérêt de l'osier, c'est que c'est un bois qui est tendre. Donc, on peut utiliser le crayon. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est un crayon de bonne qualité et utile, pas qu'une jolie branche transformée en crayon. Et donc, du coup, l'osier s'est imposé un peu comme une solution pour pouvoir avoir une forêt de crayons.
Voilà. Qui utilise encore des crayons de couleur ?
Ah, mais tout le monde, même ceux qui utilisent la palette graphique. Et quand ils voient ces crayons-là, qui sont vraiment poétiques, quoi. Voilà, c'est un objet, c'est presque un objet engagé. Voilà, tout le monde revient au crayon, même ceux qui utilisent les palettes graphiques, vraiment, quand ils voient ces crayons-là, ils craquent au moins pour un. Voilà.
Expliquez-moi ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans cette aventure.
Alors, donc on est deux dans cette aventure et nous, ce qui nous a motivés, c'était un, qu'on voulait lancer notre propre entreprise. On voulait travailler de nos mains des matériaux relativement vivants, voilà, donc le bois est un matériau vivant. On voulait également proposer des objets qui soient utiles et qui rendent les gens acteurs, voilà. C'est pas un crayon à poser joliment sur un bureau, c'est vraiment un crayon à utiliser, à tel point que nous, on a des gens dont c'est le métier qui utilisent nos crayons pour travailler. Il y a des gens qui font des storyboards de cinéma, de la bande dessinée, des aquarellistes qui travaillent avec nos crayons. Voilà, Donc là, on a atteint notre objectif avec ça.
Et c'est vous qui les fabriquez ?
Oui, exactement. Alors on transforme les branches en crayons, pour être exact.
Vous faites un trou au milieu ?
On explique aux gens qu'on a lancé un élevage de vers à bois et on leur a appris à grignoter le bois tout droit pour pouvoir glisser des mines à l'intérieur. Voilà. C'est un peu plus magique que dire qu'on perce le bois.
Oui, mais j'ai pas dit par quel moyen. Hein. Vous procédez ?
C'est sûr.
Ces mines sont en quelle matière ?
Alors, les mines, c'est du naturel dedans. Vous avez des pigments naturels, de la cire, du kaolin et de l'eau. Voilà. Ça, c'est pour les crayons de couleur. Et puis, dans les crayons à papier, c'est du graphite avec du kaolin et de l'eau. Là, il y a des mines qui sont cuites et d'autres non. Voilà.
Alors, je vois qu'on ne peut pas toucher. Alors, comment utiliser un crayon sans le toucher ?
Prenant les crayons test qui sont juste à côté.
Camille, vous testez ?
Allez, c'est parti.
Crayon à papier.
Je vais me décrire ce que vous faites.
Moi, j'écris alternante. C'est vrai que c'est doux, ça suit et ça donne envie de dessiner.
Ah bah, je vais rajouter la fréquence. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse ?
Oui. Oui, même si les gens s'arrêtent pas forcément, au moins ils tournent la tête et quand ils voient les crayons, ça leur donne un sourire. C'est surprenant, c'est vrai. C'est magique.
Voilà quelqu'un que je vais pouvoir recycler.
Exactement, quand on parle de recyclage, même pour la radio, ça marche.
Vous vous souvenez des questions que je vous ai posées l'année dernière ?
Ouais, il y a une question piège à la fin. C'était quoi déjà ? Je rappelle, il y a une question piège.
Est-ce qu'on peut trouver un cadeau qui ait du sens mais qui soit inutile ?
J'ai ça en stock.
Regarde.
Ah oui, c'est pas inutile ça.
Regarde, ça c'est pas inutile.
Raphaël.
Enfin, quoi que si, ça éclaire. Mince. Mince. Si, ça c'est complètement inutile. Donc tu peux te faire plaisir là-dessus.
Oui.
T'as le créateur en plus en face de toi.
Qui s'appelle ?
Gabriel.
Bonjour Gabriel. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à vos cadeaux ?
Pour moi c'est limiter les déchets, déjà. Dans l'ambiance, on voit bien le temps qu'il y a maintenant. On se dit que va peut-être falloir faire quelque chose par rapport à nos déchets, à consommer un peu intelligemment. Pour moi c'est principalement ça, ma matière première c'est les déchets, hein, c'est les poubelles. Donc je fabrique mes sculptures à base de à peu près tout ce que je peux trouver que les gens peuvent jeter. Et puis c'est aussi, on va dire, consommer local. Tout ce que j'essaye, genre le peu de choses dont j'ai besoin, j'achète localement. Donc c'est un peu le sens que je mets moi dans mes créations.
Donc pour les décrire, parce qu'on est à la radio.
Ma démarche c'est redonner vie aux déchets. Donc souvent ça se voit dans mes créations, elles ont toutes l'air vivantes. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que je suis. Après, on va y retrouver des pièces de vélo, des boutons de jeans, des pièces de disque dur, du vieil outillage. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? J'aime beaucoup, après je suis un peu issu du milieu de la mécanique, donc j'aime beaucoup tout ce qui est engrenage, pièces de transmission. Donc c'est ce qu'on va retrouver principalement. Et puis j'essaye de leur donner vie, qu'on y retrouve un peu de poésie aussi dans certaines pièces. Ça est un peu... Voilà, les déchets, on considère ça comme étant des rebuts, des choses qu'on doit acheter. Et en fait, ici, on voit que c'est encore en vie, que ça, c'est encore utile, que ça sert encore.
Est-ce qu'un cadeau doit être utile ?
Pas forcément. Alors déjà, si tout était utile, je pense qu'on s'embêterait un peu. Hein. On rentrerait dans la norme et c'est pas trop ce que je recherche, moi. Je veux dire, ce qu'on retrouve aussi sur le marché, hein, ici, sur notre marché, on va dire que c'est pas ce qu'on retrouve en grande surface, quoi. Ça reste de la pièce unique. Ça, pour moi, le cadeau, c'est surtout le coup de cœur. C'est avoir une pièce qui parle, une pièce pour laquelle on est un peu d'émotion, je vais dire. Et puis, je pense que c'est le sens du cadeau.
Pour tout vous dire, on voulait conclure donc notre visite par un stand où on puisse trouver quelque chose qui ne soit pas forcément utile, inutile, sans... se faire lyncher en disant, mais attendez, là...
Et donc là... Tu nous as donné la bonne réponse.
Voilà, qu'est-ce qui est inutile alors pour vous sur ce stand ?
La plupart des pièces que j'ai, par exemple, sur la plupart, moi j'ai qualifié un peu comme étant des robots. Bah c'est pas, même si la lumière dedans, c'est pas des lampes. La lumière qui est dedans, c'est juste pour leur donner vie. Et comme un robot, ça s'allume, ça s'éteint, c'est un peu le même principe. Et les pièces que j'ai, ce n'est pas des lampes. Je ne peux pas vous éclairer pour lire avec, ni faire quoi que ce soit avec. C'est juste, je veux dire, c'est une pièce dont on va aimer l'esthétisme et dans laquelle on va se retrouver. On va y retrouver un peu nos convictions, nos principes.
Mais ça vaut le coup pour donner vie à un robot, à un objet, de gaspiller de l'électricité ?
Après, c'est un peu une question piège. Après, gaspiller, je sais pas si on peut dire gaspiller, mais je vois le sens de la question. Mais après, il y a une petite démarche artistique et la lumière fait partie un peu de cette démarche-là. La lumière, c'est la vie, donc je leur donne vie avec ça. Après, je pense que le bilan carbone, même si vous laissez tourner le robot 24h sur 24 pendant 10 ans, ça sera loin de ce que ça peut coûter en énergie de refondre du métal, de redonner format du métal, de le retransporter. Même les câbles, c'est de la récup, la plupart des ampoules, c'est de la récup. Donc je pense que le bilan carbone, au final, il reste quand même très très positif.
Toujours dans les collectifs, hein, c'est la monnaie locale complémentaire du Pays de Ré.
Je fais un sujet sur le Réal.
Du coup, là, ils ont une présence sur l'autre marché sous forme de chalet de 12 mètres. Donc, cette année, ils prennent place et ils mettent en vitrine certains entrepreneurs qui acceptent cette monnaie-là sur le territoire. Donc, pour les clients, c'est l'occasion de découvrir les produits aussi en direct et de faire le lien avec la monnaie et d'avoir ça sous la main. Donc, c'est ici le chalet.
Vous acceptez les réels ?
Je suis commerçante du réel, je fais des articles
Sandra.
En polaire, des petits bonnets, des petites écharpes. Et puis du coup avec le réel on a pris un chalet à plusieurs pour parler de la monnaie et puis pour permettre aux commerçants du réel de partager le chalet, de partager les permanences, de partager les frais et donc de faire tous ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire tout seul.
Et ça vous apporte quoi cette utilisation de monnaie locale, vous, en tant que commerçante ?
Alors en tant que commerçante, ça m'apporte du réseau parce que je rencontre d'autres professionnels avec qui je peux collaborer. Ça m'apporte du lien, essentiellement du lien, renouer des liens avec... Avec les clients, la monnaie, ça fait parler, ça fait discuter. Il y a une connivence qui se crée entre les utilisateurs et puis les commerçants. Donc voilà, je trouve que ça apporte un plus au métier.
Ouais. Vous vendez des bonnets, c'est vous qui portez le chapeau.
C'est ça, on peut le dire en plus parce que je m'occupe de beaucoup de choses dans la monnaie locale. Je suis bénévole. Voilà.
Est-ce que ça te dirait maintenant d'aller se réchauffer sous le Barnum exposant ? C'est un lieu du coup cette année qu'on a dédié aux structures qui sont présentes une ou deux semaines sur les trois. Donc les gens comme ça, ils peuvent découvrir chaque semaine de nouvelles structures, de nouveaux produits. Donc cette année, on a par exemple Écosse ou le collectif de soutien du coup aux migrants qui est présent, qui crée en permanence de superbes petites cartes, des petits cahiers, etc. On se dirige vers la structure Capoun, qui travaille sur des articles pour les enfants et qui travaille à partir de matières recyclées, entre autres, et sérigraphiées, technique d'impression qu'on revoit de plus en plus autant sur des affiches que sur du textile. Donc je vais peut-être laisser... Est-ce que tu voudrais dire un petit mot ?
Ils sont timides sous le Barnum.
Ouais, mais moi aussi je suis timide. Hein.
Mais ouais. Moi aussi ?
Bah voilà.
Bon, on essaye.
Allez, on y va.
Est-ce que vous avez un prénom ?
Oui, je m'appelle Salomé.
Salomé, elle vient d'où cette timidité ?
Ah bah je sais pas, pourtant je suis animatrice de base, je pourrais parler des heures, mais bon là c'est pas facile à côté d'un petit micro.
On essaye de l'oublier, c'est pas mal
voilà,
comme idée. Hein.
C'est pas mal.
Ça veut dire quoi Capoun ?
Capoun, c'est le nom du doudou de la petite sœur de ma collègue. Voilà, ça nous est venu comme ça, on cherchait un nom et puis on s'est dit, tiens, un nom de doudou, c'est pas mal pour une marque de vêtements bébé.
En compagnie de Camille Breton, chargée de production événementielle au sein de l'association Les Écosolis, nous allons à la rencontre de quelques exposants exposantes de l'autre marché qui se tient autour du square Jean-Baptiste Davier à Nantes jusqu'au 24 décembre 2016.
On essaye de faire des vêtements mixtes, de changer les codes à notre échelle, d'oublier les petites paillettes, les fleurs et le rose. et de proposer une collection totalement mixte et sérigraphiée à la main.
Voilà. En quoi vous vous inscrivez dans l'esprit de l'autre marché ?
Ben nous, on a une démarche où on essaye de faire que de l'artisanal. Donc, c'est-à-dire qu'on est deux, on travaille totalement à la main. Et on fait travailler aussi le commerce local dans le sens où on achète nos cuirs dans la région et nos tissus en Europe. Et voilà, et tout est fait à la main, de la sérigraphie artisanale à la production. On est quatre petites mains et on travaille voilà, pour faire ce petit travail.
Vous êtes une déçue de l'animation ?
Ah non, j'aime toujours ça. Je suis surtout une déçue de mon travail d'avant. Je travaillais dans la grande distribution. Voilà, et c'est pour ça que j'ai lancé ce travail, cette petite collection Capoun. C'est pour justement pour proposer des choses nouvelles et arrêter de faire travailler l'Asie, entre autres.
C'est compliqué à se lancer ?
Avec de la motivation, de l'envie, ça marche toujours.
C'est du blabla, ça ?
Non, c'est pas du tout du blabla. C'est pas du blabla, on a quitté nos travails respectifs et même pas peur, et même si c'est beaucoup de travail, c'est aussi que du bonheur.
Et les banquiers ?
Bah, les banquiers, pour l'instant, ils s'occupent pas trop de nous, ça va, tant qu'on est dans le positif.
Vous n'avez pas besoin de grand-chose au fond pour démarrer ?
Ben non, on commence avec pas grand-chose et on n'a pas grand-chose à perdre non plus. Donc c'est l'avantage quand on est deux jeunes, on n'a pas d'enfants à nourrir. Au pire, on mangera des pâtes. Voilà.
Comment ça ? Pas de gamins et vous proposez des vêtements pour gamins ?
C'est exactement ça. Mais on a travaillé dans l'enfant, on a travaillé dans le bébé, on le connaît très bien. Et puis dans la famille, il y a toujours des bébés, partout.
Là, cette année, il y a 81 exposants, donc on augmente de... L'an dernier, on était à 66 exposants, si je ne me trompe pas. Donc on augmente encore cette année, pourtant il n'y a pas plus d'emplacements. L'idée, c'est de mutualiser des chalets ou des espaces. Donc ça se multiplie et comme ça, tout le monde a le droit aussi et a le temps d'être sur ce marché. Donc, c'est ça, chaque année, il y a plus de demandes. On a reçu 90 candidatures cette année. Donc, de plus en plus convoité, ce marché.
Guillaume, vous avez redoublé. Pourquoi ?
J'ai redoublé pour passer l'épreuve, un peu l'épreuve du feu, parce que là, l'idée, cette année aussi, c'était d'avoir un chalet un peu plus grand. Et puis, revenir aussi, voir un peu aussi comment les gens qui en avaient pris l'année dernière aussi avaient fait évoluer un peu les terrariums chez eux. Donc ça, c'était plutôt chouette, parce que... Il y a pas mal de gens qui sont revenus et qui avaient pris justement des terrariums l'année dernière et qui en fait cette année en ont repris 2-3, enfin voilà. Donc ça me rassure aussi sur la durée de vie chez les gens des petits objets que je fais, donc c'est plutôt chouette.
C'est addictif, alors ça me suggère qu'il y a peut-être des plantes addictives qui sont cultivées dans ces bocaux.
Ce qui est addictif, ce qui est addictif, c'est je crois l'idée de la compréhension aussi du fonctionnement du terrarium, parce que en gros, terrarium, ça vient. Le concept, c'est de reproduire un peu les conditions terrestres. Et pour ça, c'est plutôt intéressant, puisque c'est. Vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, la seule chose à faire, c'est à observer. Et quand on observe, on découvre plein de choses, donc le fonctionnement des plantes, l'idée que tout est recyclé à l'intérieur d'un terrarium, l'air, l'eau, un peu comme nous dans la nature en fait, on peut être amené à reboire plusieurs fois la même eau, à respirer le même air plusieurs fois, les plantes, c'est ce qu'elles font, en tout cas dans les terrariums. Donc voilà, et puis après, même si on veut même aller plus loin, on peut comprendre aussi le fonctionnement des champignons, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les plantes, le déplacement d'un champignon, d'un mycélium dans un terrarium, c'est assez chouette à regarder. C'est un peu comme une toile d'araignée en 3D ou un réseau géant de communication, c'est assez fascinant en fait. Voilà. Donc oui, il y a un côté comme ça chouette, puis le côté esthétique.
Comment on traite la buée ? Parce qu'on voit pas vos plantes ce soir.
Ouais, en fait, la buée, c'est la condensation. L'idée, c'est que comme là, l'intérieur du chalet est plus chaud et l'extérieur est froid, les endroits où l'eau, l'humidité ambiante entre en contact avec avec le verre, qui est plus froid, ça crée de la condensation. Donc un peu comme vos lunettes là, si par exemple vous rentrez dans un chalet, il fait chaud, et puis vous sortez, il fait froid, vous allez avoir de la condensation.
Voilà. Ça veut dire qu'elles sont vivantes, c'est pas du plastique?
Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est même rassurant qu'il y ait de la condensation, ça veut dire justement qu'elles respirent, qu'en fait elles absorbent l'eau qui est contenue dans le sol, et qu'elles le recréent en air, et permettent aux mousses de vivre, parce que des mousses en appartement, c'est impossible à garder, hormis... les vaporiser à peu près une ou deux fois par jour, donc voilà. Et là, on va arroser une fois tous les trois mois, voire une fois par an pour certains modèles, quoi.
Vous pourriez, je sais pas, enfermer des petits insectes?
Alors, des insectes, pourquoi pas? Après, il peut y avoir des micro-organismes, en fait. Ça peut même... Ouais, c'est même bénéfique, en fait, dans le sol. Après, c'est fermé, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Il peut y avoir des petits insectes qui vont, en fait, décomposer la matière morte. Donc ça contribue aussi à l'écosystème, voilà. Après, on pourrait imaginer installer des petites choses, genre des petits cloportes, des choses comme ça, les voir évoluer. Ça, c'est pas fou, quoi. Voilà.
Je sais pas si c'était une bonne idée.
Je pense que c'est une bonne idée dans la nature, c'est la diversité, en fait. Qui est
oui, mais les enfermer comme ça.
Ah, les enfermer. Bah, après, c'est pareil pour les plantes. Des fois, j'entends, ah oui, mais on enferme les plantes. En même temps, mettre des plantes dans un appartement, c'est une souffrance terrible pour elles, parce qu'il n'y a pas d'environnement sur Terre où on a une chaleur comme ça, où l'air est très sec, hormis dans les déserts, à la limite. Donc si vos appartements sont des déserts, mettre un terrarium, en fait, pour les plantes, c'est même plutôt sympa, en fait, pour elles. Donc,
Vous leur parlez à vos plantes?
Ça, c'est un petit peu personnel, mais enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on sait que les plantes communiquent entre elles. Alors après, nous, on va peut-être un jour trouver la clé pour communiquer avec elles, quoi. Par contre, ce qui est clair, c'est que quand on leur parle, on fait attention à elles, et quand on fait attention à elles, bah forcément, on fait attention à leurs besoins, donc elles sont plus belles et elles poussent plus vite, enfin voilà.
On était dans un stand tout à l'heure qui vendait des crayons de couleur. Il ne faut pas d'abord passer par ce stand pour avoir la main verte.
Oula, oui, d'accord.
Scolorier la main, quoi.
Oui, scolorier la main, ouais. Bah, la main verte, c'est un mythe intéressant. Après, comme je disais, pour moi, toute la clé en fait, de la main verte, c'est l'attention qu'on porte aux plantes, dont l'arrosage principalement, voilà. Donc voilà, après, chacun ses croyances, quoi. Mais peut-être que si on pince sa main en verte, peut-être, en effet, c'est un effet, sans doute, d'ailleurs. Ouais.
Je sais pas pourquoi la main verte, mais bon.
Ouais, bah, la main verte, le vert, c'est la chlorophylle, quoi. Donc, alors, il y a des végétaux, en effet, qui sont pas verts. C'est les végétaux... Là, il y en a plein qui sont de couleur rose, rouge. Ça met un peu de couleur, c'est pas mal. Souvent, c'est des végétaux qui poussent dans l'ombre. C'est pour ça qu'en intérieur, il y a des plantes qui ne sont pas vertes, qui ont d'autres couleurs. C'est des plantes d'ombre parce que c'est un autre moyen. Alors là, je ne sais pas exactement, je ne suis pas expert, mais bon, c'est un autre moyen aussi de transformer la lumière, en fait, hein, donc pour elles. Puis après, il peut y avoir aussi des interactions qui peuvent être intéressantes avec certains animaux, des choses comme ça. Donc pour ça aussi, quand même, il y a des couleurs.
Merci à Camille Breton ainsi qu'à tous les exposants exposantes de l'autre marché qui se tient autour du square Jean-Baptiste Davy à Nantes jusqu'au 24 décembre 2016 pour leur libre participation à ce reportage. Qu'est-ce que tu retiens de cette petite aventure d'interview en marchant?
Eh ben, je trouve que les gens à écouter parler de leur projet quand ils sont passionnés, c'est très agréable. J'aurais bien continué avec toi pendant une petite demi-heure sans problème. C'est vraiment des passionnés qui travaillent différents types de matières, matériaux, différents projets, et chacun ils ont leurs particularités, et ça donne envie d'acheter, de ramener un petit bout de leur projet chez nous.